le 16. Culture.
Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben, on a au bout du fil Martin Ariola. Salut Martin, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Donc, on te reçoit aujourd'hui pour parler de ton nouvel album, donc Nyamandu. J'aimerais ça parce que l'histoire un peu derrière cet album-là, c'est que c'est inspiré du mythe de la création des Guarani, qui est un groupe autochtone du Paraguay. J'aimerais ça que tu nous racontes, là, en moins de 10 chansons peut-être, c'est quoi ce mythe-là fondateur?
Ben, c'est ça, c'est un mythe un peu qui peut ressembler au mythe de la création qu'on retrouve dans les autres religions, comme dans l'Ancien Testament, là, le mythe de la Genèse. Okay. Mais c'est la version Guarani de ce mythe-là. Et donc, il y a plein de singularités et de particularités à la culture Guarani et à leur façon de voir les choses. Puis dans le fond, c'est ça, c'est un mythe qui part d'un dieu suprême qu'ils appellent Nyamandu, d'où le titre de l'album. C'est le dieu, dans le fond, qui est à l'origine de tout, qui s'est auto-créé comme un arbre en fleurs, qui a créé par la suite les autres dieux, la première terre, les premiers humains, etc., etc. Donc, ce mythe-là, c'est nous parle de comment le monde est né. Puis là, il se passe un paquet de choses là-dedans. Moi, j'ai utilisé ce mythe-là pour m'inspirer pour mon album, puis pour, dans le fond, pour parler non pas seulement de la création de l'univers, mais de parler de la création au sens large, de différentes sortes d'origines, comme mes origines à moi, mes origines culturelles. Je viens du Paraguay, justement, donc je traite de ça. Je parle de la création aussi au sens de créer des enfants. Donc, je suis un nouveau père, donc j'aborde ce thème-là de la création. Donc, plein de niveaux, si on veut, en lien avec la création. Puis le mythe de Guarani, c'est comme un prétexte pour aborder tous ces thèmes-là.
Est-ce que ce mythe-là, ben, j'imagine qu'il est quand même assez répandu, mais est-ce qu'il y a encore son importance fondamentale au sein des populations Guarani?
En fait, je dirais oui et non, parce que c'est un mythe qui est quand même... Il a fallu que je fasse des recherches pour tomber dessus. Un mythe qui est surtout connu, je dirais, des anthropologues qui s'intéressent à la culture Guarani et qui ont sondé, dans le fond, les Guarani qui sont encore là, parce que c'est une tradition orale, en fait. Mm-hmm. Et l'affaire, c'est qu'il y a différentes versions du mythe. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le mythe dont je parle là, dans l'album, ben, en tout cas, qui m'a inspiré, c'est un mythe que tout le monde va connaître. C'est aussi le résultat d'une tradition orale. Il y a plein de versions, des versions plus chrétiennes, parce qu'il y a des jésuites qui sont allés en Amérique du Sud pour évangéliser. Donc, c'est très intéressant. Dans le texte qui m'a servi d'inspiration, en fait, pour chaque chapitre, il y a différentes versions, puis le récit est un peu différent. Fait que c'est aussi ça qui est intéressant, le côté organique, finalement, de tout de ce mythe-là.
Toi, c'est quelle version, selon tes recherches, là, que tu as adoptée? Parce qu'effectivement, tu sais, je voulais t'amener à parler justement de cette espèce de mélange-là, des fois qu'on voit dans soit les peuples latino-américains, c'est ce mélange-là entre la religion catholique puis les mythes traditionnels, ou en tout cas la religion traditionnelle. Toi, c'est quelle version tu as adoptée? La mix? Est-ce que tu te promènes d'une version à l'autre?
Non, mais en fait, je voulais vraiment parler de la version qui me semblait être la plus authentique, ou en tout cas la plus singulière, la moins chrétienne, on va dire. Et puis, justement, cette version-là parle de Nyamandu, alors que d'autres versions parlent plutôt d'un dieu créateur qui appelle Tupa. Donc, c'est quand même un autre dieu qui prend une autre importance, parce que ça fit plus, justement, avec l'Ancien Testament puis avec le christianisme. Mais malgré ça, puis c'est peut-être à ça que tu fais référence, on voit quand même qu'il y a des thèmes universels, sans que ce soit des thèmes chrétiens, tu sais, que les chrétiens ont imposé aux Guarani, des thèmes comme le déluge. Les anthropologues pourraient nous le dire si c'est vraiment Guarani, mais je pense qu'on a là, avec le thème du déluge, dont il est question dans le mythe Guarani, un thème universel. Donc, à un moment donné, les dieux se fâchent puis provoquent un déluge qui anéantit tout. Cette idée là, qu'on connaît dans les religions, là, qu'il y a une punition, finalement, qui nous guette si jamais on se comporte pas bien.
Ouais, ouais.
Puis justement, tu parles des thèmes, tu parles de la nature, qui revient, c'est un thème qui revient assez souvent dans l'album. Tu sais, justement, on entend des bruits de vent, des chants d'oiseaux. Quelle ambiance tu as voulu transmettre en utilisant ces sons-là?
Oui, ben c'est un bon point, parce que ça, évidemment, c'est ce qui est spécifique là au Guarani, ce côté-là, vraiment... comme une nature ben, avec laquelle ils sont en harmonie. Donc, je voulais qu'on sente ça, le côté un peu, c'est ça, de l'harmonie avec la nature. Puis l'ambiance que je voulais évoquer, ben c'est justement, c'est un thème qui me parle beaucoup, cette idée que dans le fond, le côté sacré, si on veut, ou spirituel, qui vient avec ce mythe-là, parce qu'il est question de Dieu et tout ça, ben c'est pas nécessairement le sacré transcendant qui viendrait d'un au-delà surnaturel. c'est un sacré qui vient de la nature. Donc, la nature elle-même est sacrée, spirituelle. Puis c'est ça qu'on retrouve, entre autres, dans l'animisme ou dans le panthéisme chez les Autochtones, mais aussi dans des théories philosophiques et tout ça, qui m'intéressent. Cette idée, donc, de fusion avec la nature, qu'on est des choses naturelles, les humains, puis qu'on fait partie de la nature, et de trouver une façon, rendre la musique, justement, c'est possible, de fusionner à nouveau, d'être en harmonie avec la nature, au lieu de se voir comme un être séparé de la nature.
Mm-hmm. Puis pour aller chercher ces sons-là, est-ce que tu es allé dehors enregistrer des sons d'oiseaux? Comment tu as procédé?
Oui, en fait, c'est ça, j'ai fait des recherches sur Internet, entre autres, sur plein de choses, puis je suis tombé sur un son de satellite. C'est okay. Un peu weird, mais en fait, ce son-là, ben, parce qu'à quelque part, tout ça, c'est de la création de l'univers, fait qu'on pense au Big Bang, on pense donc à des thèmes plus comme d'astrophysique et tout ça, et je suis tombé là-dessus, et ça ressemblait à des oiseaux. Donc, c'est pas des sons d'oiseaux, c'est des sons de satellites qui ont été captés dans l'espace. Fait que je trouvais ça le fun qu'il y ait cette espèce de confusion entre le futur puis le passé, c'est l'origine, puis que c'est ça, que dans le fond, qu'on semble déjà en germe dans l'origine de l'univers, le futur, puis la technologie, l'espace, puis toutes ces choses-là. Mm-hmm. Donc, tu vois, c'est plus comme ça, un peu dans une démarche presque inconsciente, que j'ai ajouté ça au lieu d'aller dans le monde puis prendre, tu sais, enregistrer des choses. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis le vent, c'est fait par un Moog, donc c'est un synthétiseur, c'est un son de synthèse. Fait qu'encore une fois, c'est la machine qui crée le son de la nature. Fait que c'est une espèce de mélange entre futur puis passé, puis c'est ça que je trouve intéressant.
C'est ton premier long jeu. Tu as sorti quelques EP à travers le temps, notamment Déluge. Tu viens de nous parler un peu justement du mythe de Déluge, mais est-ce que c'est juste une coïncidence ou si vraiment, tu sais, c'est vraiment cette mythologie-là qui drive ton processus créatif?
Non, mais en fait, c'est que Déluge, c'est carrément une partie. C'est une partie de l'album.
Okay.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que c'était long. C'est un long processus, cet album-là. Je travaille dessus. En tout cas, j'ai réfléchi depuis 2018, là, depuis que j'ai lancé le EP de cette époque-là. Et donc, je voulais sortir quelque chose déjà. Je ne vais pas attendre que l'album soit terminé. Donc, j'ai sorti Déluge comme une partie, un avant-goût de l'album. Ces tunes-là de Déluge se retrouvent sur l'album. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux.
Et Nyamandu, qui est comme un album concept, un peu comme Pink Floyd l'a fait sur l'album Dark Side of the Moon, ça apportait quoi, ton album, de faire un album concept?
Ben, c'est que, dans le fond, ben, ça permet de justement que ce soit pas juste une succession de chansons, mais qu'il y a un concept, qu'il y a une idée derrière ça, puis qu'il y a une réflexion. Puis, dans le fond, moi, c'est ça qui me drive, justement, c'est l'espèce de relation que je veux établir entre la philo qui m'intéresse et la musique. Fait que c'est une bonne façon, à travers l'album concept, justement, d'intégrer des idées philosophiques de manière plus, c'est ça, qui soit plus au centre de la démarche artistique. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que tout ce qui est conceptuel, ça m'intéresse dans cet esprit-là. Puis c'est pour ça que j'ai fait comme un documentaire où là, j'explique, là, c'est vraiment, on est dans le conceptuel, c'est plus intellectuel, où là, je parle de chaque chanson, puis j'essaie de montrer à quel point, finalement, les deux niveaux conceptuels, intellectuels et la musique plus émotionnelle et tout ça se parlent, alors que d'habitude, on a tendance à les opposer. Puis on dit non, il ne faut pas expliquer les chansons, il faut qu'on puisse les interpréter comme on veut, puis c'est dans le ressenti. Non, moi, ce que je dis, c'est que non, il y a quelque chose, il y a une plus-value dans, justement, cet autre niveau-là, le niveau plus intellectuel. Ça peut enrichir, en fait, l'expérience musicale.
Mm-hmm.
Puis justement, tu parlais de philo, parce qu'en fait, en plus de ta carrière musicale, tu es prof de philo au Collège Bois de Boulogne à Montréal. Donc, on se demandait, là, est-ce qu'il y avait des moments qui rejoignaient les deux volets dans ta vie, là, comme ça?
Puis comment tu concilies aussi ces deux carrières-là? C'est pas facile, c'est ça, d'avoir une gig en Côte-Nord puis d'enseigner le lundi matin, là? Fait que...
Ah, bien, carrément. Puis tu sais, en fait, par rapport à la première question, tu sais, c'est comme ma quête depuis des années. J'essaie de justement réconcilier les deux, parce qu'à la base, on s'entend, il y a quand même, c'est pas évident. Et puis, je veux pas que ça soit plaqué, tu sais, que ce soit pas un mariage artificiel non plus. Mm-hmm. Le but non plus, c'est quand tu fais de la musique, c'est quand même pas d'être didactique puis de donner des leçons ou des choses comme ça. Mais justement, c'est que le lien entre les deux, ça vient de ma conception de la philosophie, où est-ce que pour moi, la philo, justement, c'est quelque chose qui est vécu, c'est une expérience qu'on vit. Donc, ça peut passer, ça passe par des théories, donc par des raisonnements logiques. Mais l'idée, c'est qu'éventuellement, ces théories et ces raisonnements logiques, on peut les appliquer dans notre vie, puis ça peut changer notre vie. Donc, une dimension existentielle, finalement, pour moi, à la philo. Et dans la musique, c'est ça. Tu sais, la musique, c'est une expérience qu'on vit. Et à quelque part, ça permet de compléter la dimension plus intellectuelle de la philo. C'est pas juste dans notre tête, on peut vivre des idées existentielles ou philosophiques quand on les ressent dans notre corps puis dans des émotions. Donc moi c'est ça que j'essaie de faire, donc créer des expériences philosophiques à travers la musique. Et pour concilier les deux carrières, ben c'est ça, c'est très difficile. Effectivement, en ce moment, je le sens beaucoup parce que là, c'est un album complet, il y a beaucoup de promos, il y a beaucoup de mouvements autour de ça. Mais c'est stimulant, tu sais, c'est un projet qui donne un sens, là, tu sais, qui fait que ben, c'est fun de travailler là-dessus, c'est fatigant et tout ça, mais ça vaut la peine. Ouais. C'est ça, j'essaie de trouver mon équilibre là-dedans.
Est-ce que tu as des dates de prévues ou si tu te gardes ça plus pour l'été quand il n'y aura pas d'école?
pour les spectacles?
Oui, excuse.
Oui. Non, il n'y a pas de date de prévue. Là, je suis comme rendu à élaborer le spectacle, à travailler.
Okay.
Ça s'est fait comme ça parce que, dans le fond, j'ai fait le choix de passer plus par des vidéos pour le côté, justement, plus expérientiel là, du projet. Donc, pas faire de spectacle de lancement, par exemple, mais de faire comme un lancement virtuel à travers des capsules vidéo où je parle du concept de l'album.
Okay.
Donc, c'est beaucoup ça que ça m'occupait beaucoup, bien sûr. Et là, je me suis dit, non, ce sera après le lancement de l'album où là, il y aura une autre phase. Où je vais justement préparer le spectacle. J'aimerais que ce soit un spectacle justement plus conceptuel. Donc, ça demande plus de travail. Je peux pas juste. Je veux éviter de juste, mettons, rassembler un groupe comme je fais d'habitude, puis de jouer les chansons, ce qui serait possible, bien sûr. Et c'est pas l'école, là, c'est pas le travail qui m'empêche de le faire du tout. Je le fais depuis que j'étudie à l'université la fin de semaine. Là, je faisais des shows, puis la semaine, comme tu disais, là, je revenais à l'école. Donc, ça fait partie de ma vie.
Ouais. En terminant, Martin, nous, on va l'écouter. Si tu savais, j'aimerais ça que tu nous la présentes un petit peu.
Ben c'est ça. C'est qu'un des niveaux de l'album, c'est le thème de l'origine de la création, au sens de la création de la famille. Donc, il y a le thème de la famille. Puis justement, Nyamandu est vu comme le grand-père. Donc, il y a toujours cette métaphore-là dans le mythe guarani. Et ce qui fait que j'ai parlé de différents membres de ma famille dans l'album aussi, en plus de parler du mythe. Et là, je parle dans cette chanson-là, si tu savais, je parle de mes frères.
Okay.
J'ai focusé là-dessus et je me suis basé sur un rêve que j'ai fait à propos de mes frères où je voyage dans le passé. Puis là, sont des enfants dans la maison familiale. Puis là, je leur dis ce qui va arriver dans leur vie plus tard. Et je raconte ça rapidement là. Et c'est de ça que parle la chanson. C'est comme je raconte un peu ce rêve-là où je suis dans le passé, puis je parle à mes frères qui sont des enfants. Puis je leur dis ce qui s'en vient pour eux.
Génial, on va pouvoir entendre ça. Écoute, je te remercie beaucoup, Martin. On rappelle à nos auditeurs et auditrices que ton album Nyamandu est déjà sorti. Écoute, Martin, au plaisir de se voir à Sherbrooke et merci beaucoup.